Ça va, vous êtes prêts? Ouais, donc voilà, donc bon appétit. En général, on dit ouais, c'est nul de parler après avoir mangé parce que tout le monde est endormi. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas dormir. On va passer un bon moment. Alors, comme Joe l'a dit, je m'appelle Jack, j'ai Colia. Donc je suis mariée avec Ben, j'ai 5 enfants. Que dire d'autre? J'habite Vesoul, on fait partie d'une petite église à Vesoul qui s'appelle ECR Vesoul. Et donc je suis pasteur stagiaire dans cette église. Je suis mère au foyer. Que dire d'autre? Je termine une formation actuellement parce qu'à la base j'ai un diplôme d'infirmière. Je termine une formation pour devenir formatrice pour accompagner les couples et les femmes en gestion naturelle de la fertilité. Voilà. Donc, par exemple, les personnes qui veulent se débarrasser de moyens de contraception ou alors qui veulent avoir une vie sexuelle en gérant, en fait, leur cycle et ne pas faire des bébés tous les ans ou alors qui veulent faire un bébé, ils pourront à partir de début mai me contacter directement et je fais des suivis. Voilà. C'est parti, on commence. Du coup, il y aura 4 parties et puis entre chaque partie, il y aura une petite pause où je vais vous voir faire les squats, les pompes, d'accord? On a compris que voilà, fallait continuer de bouger, donc on va rester dans l'esprit de Julien. Je vais d'abord vous parler de la famille en bonne santé. Ensuite, je vais vous parler du corps de la femme, parce que n'est-il pas magnifique? Regardez-vous, mesdames. Voilà. Et puis, alors pourquoi parler du corps de la femme? Parce que c'est à peu près 50% de la population. Parce que, mesdames, vous allez voir, vous êtes des trésors. Hein, et c'est fantastique d'apprendre plus sur soi-même pour se comprendre, s'accepter, adorer Dieu, le remercier pour ce corps. Et messieurs, en général, vous avez une mère, vous avez peut-être des sœurs, vous êtes peut-être déjà mariés ou vous allez le faire. Et ça va vous permettre aussi de mieux comprendre la femme. Et vous savez que c'est compliqué. Donc, hein, on prend. Et vraiment, c'est une très bonne chose de le faire à l'église. Donc ça, c'est super. Nous allons parler ensuite de la sexualité. Donc, comme Joe l'a dit, on va vraiment parler de façon saine et biblique, parce que ça a été créé, inventé par Dieu. Donc, c'est quelque chose de magnifique, de glorieux, de sacré. C'est vraiment divin. Et puis, y a rien de nouveau sous le soleil. Que fait le diable? Il copie ce que Dieu fait et il le vole pour détruire. Et vous le savez comme moi, dans la génération dans laquelle on vit, dans la Bible, on voit que voilà, partout le diable, il a essayé de voler la sexualité. Et en fait, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des clés pour ressaisir tout ce que Dieu veut nous donner au travers de celle-ci. Et on va terminer avec un temps pratique, héritage et guérison. Parce que vous êtes dans une école de disciples, donc on ne fait pas que de la théorie. On va avoir un temps pratique d'écoute du Saint-Esprit par rapport à l'héritage que vous avez reçu de votre père, de votre mère, et vous allez avoir un temps d'écoute parce que Dieu, il veut vous révéler son héritage céleste pour vous, pour chacun d'entre vous. Et il y a des choses que vous avez reçues de vos parents qui étaient de Dieu. Des choses, c'était pas de Dieu. Et il y a des choses en attente que Dieu veut faire déverser sur vous. Amen. Voilà le programme. Ça vous plaît? Super. Ok. Du coup, une famille en bonne santé. Pourquoi parler de la famille? Nous faisons partie tous d'une famille, dans le sens où nous avons une mère, normalement un père, nous avons peut-être des frères et sœurs, nous avons cette volonté d'appartenir à une famille. Si nous avons manqué d'une famille, ça peut nous laisser des blessures. En fait, Dieu a créé l'humain à son image. Ok, ça c'est dans la Bible. Dieu lui-même est une famille. Donc là, on va parler un petit peu bibliquement, d'accord, la notion de famille. Et ensuite, moi j'avais à cœur qu'on parle de la vie pratique et du concret. On ne va pas parler que de la théorie, parce que si vous êtes comme moi, qui n'a pas eu de galère familiale, levez la main, j'en ai aussi. Et puis on est dans cette société, on vit dans ce monde. Et en fait, Dieu est une précieuse aide et un précieux soutien pour les familles. Et moi, il m'a aidée et il m'aide encore aujourd'hui au travers du couple, au travers des enfants, etc. etc. Donc, quand je vous dis que Dieu est une famille, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que nous avons un Dieu trinité. Donc, nous avons Dieu le Père. Nous avons Jésus le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, si vous ne savez pas, ça se dit « roi » en hébreu, et en fait, c'est féminin. Donc le Saint-Esprit a tous les attributs de la mère, féminin. Quand vous lisez votre Bible, sur les attributs du Saint-Esprit, il console, par exemple, voyez. Donc en fait, c'est très fort, c'est-à-dire que l'aspect de famille, c'est voulu de Dieu, c'est créé par Dieu, et tout ce que vous avez besoin de puiser, vous pouvez le puiser en Dieu. Si vous avez besoin de l'amour paternel, vous pouvez le puiser dans Dieu le Père. Si vous avez besoin de l'amour maternel, vous pouvez puiser dans le Saint-Esprit. Si vous avez besoin de l'amour fraternel, les frères, les sœurs, Jésus aussi est comparé à l'époux, hein, qui vient chercher son église. Si tu as besoin de cet amour-là, tu peux aller voir le Fils. Donc Dieu est comme ça, c'est un Dieu relationnel qui aime être en lien les uns avec les autres. Les cassures, l'isolement, c'est pas le cœur de Dieu. De se retrouver seul, isolé, c'est propice à la souffrance. C'est aussi pour ça que l'Église, elle existe. Parce que vous savez comme moi que la famille peut parfois être dysfonctionnelle, même peut-être souvent, malheureusement. Et j'en parlerai tout à l'heure. Voyez, le projet de Dieu, il est quand même magnifique. C'est-à-dire que l'Église, c'est la famille de Dieu. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. C'est-à-dire que la Bible, elle est claire. Si tu fais la volonté de Dieu, tu es ma sœur, tu es mon frère. Et il y a cette notion de communauté. Donc, vous voyez, l'Église, c'est pas juste le dimanche matin. Je pose mes fesses et j'écoute quelqu'un dire des choses et je repars et ça n'a rien changé à ma vie. En fait, l'Église, c'est un lieu de vie. C'est comme la famille. C'est un lieu de vie. Et Dieu, il est tellement bon que si on a manqué au sein de notre famille, il peut venir se révéler, il peut venir guérir, il peut venir combler. Et puis si on veut construire notre propre famille, il peut venir nous aider. Donc ça, c'est franchement merveilleux. Alors, du coup, je disais, Dieu est famille et il a créé donc la première famille. La Bible dit dans la Genèse qu'il a créé Adam et Ève. Donc, bibliquement, cette histoire-là, c'est divine. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'une évolution, d'un ancêtre commun, d'un animal. Voilà, vous avez l'image. Ça, ce n'est pas biblique. C'est faux. Dieu est très clair dans la Bible. Il a créé l'univers. Il a créé les animaux, il a créé l'espèce humaine. Et quand il a créé Adam et Ève, il dit dans Genèse 1, 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il crée l'homme et la femme. » C'est intéressant parce que l'homme et la femme, ensemble, sont à l'image de Dieu. Vous voyez, je sais qu'on est dans une culture là où... Le féminisme, il proclame un discours assez méprisant vis-à-vis des hommes. Et je ne suis pas pour ce discours, je suis vraiment pour la complémentarité. Et je crois qu'on est dans une saison où il va y avoir une grande réconciliation entre les hommes et les femmes. C'est le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas que l'homme méprise la femme et il ne veut pas que les femmes méprisent l'homme. Et si nous l'avons fait, nous devons nous en repentir et arrêter et honorer les hommes, honorer les femmes. Et en fait, c'est comme ça qu'on va tous grandir. C'est comme ça qu'on va créer une famille en bonne santé. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être remarqué, si vous faites un bras de fer avec votre conjoint ou avec votre conjointe, ça nuit à tout le monde. On n'est pas dans un comment ça s'appelle ? On n'est pas dans un ring. Et en fait, quand le mari honore sa femme et que la femme honore son mari, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est au bénéfice de tout le monde. Et du coup, on est une équipe. Et en fait, Dieu a créé une équipe. Parce qu'au début, l'homme était tout seul. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, je vais lui créer une aide semblable, un vis-à-vis. Et de l'homme, il sort la femme. D'accord ? C'est super intéressant, ça. Et ensemble, ils sont à l'image de Dieu. En complémentarité, en unité. Et quand nous, on est divisés les uns des autres, des fois pour des raisons légitimes, en fait, ça attriste le cœur de Dieu. Parce que ce n'est pas ça son plan parfait. Et c'est pour ça que c'est possible de vivre ensemble en complémentarité et en unité, parce que c'est ce que Dieu voulait à la base. Donc, ce n'est pas vrai que c'est impossible, les hommes sont tous les mêmes, les filles, c'est toujours pareil. Ça, c'est pas vrai. Ce sont des mensonges. On a besoin d'être renouvelés dans notre esprit par les pensées de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour la femme ? Qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme ? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi, pour ma famille ? Et le Saint-Esprit, comme ça, il vous révèle ces vérités. Elles sont dans la parole de Dieu. Je vais en parler tout à l'heure. Je vais beaucoup citer la Bible. Et puis, il va vous inspirer. Et il y a beaucoup de joie, je vous assure. Il y a énormément de joie. Et un mariage heureux, ça existe. Hein. C'est possible. être une famille en bonne santé, c'est possible. Je ne vous cache pas que c'est un défi. Parce que, écoutez-moi, le diable déteste la famille. Le diable déteste la famille parce que c'est un concept divin. Et comme je vous ai dit tout à l'heure avec la sexualité, tout ce que Dieu crée, Satan le copie et le twiste pour nous détruire, pour nous mentir, pour qu'on soit limité dans nos vies. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu, il est illimité. Et la famille, c'est le lieu idéal pour en fait que Dieu se révèle au milieu de nous. Donc que ça soit au travers de ta famille physique ou que ça soit au travers de la famille spirituelle qu'est l'Église. Dieu a créé la famille et il aime la famille. Adam et Ève étaient donc la première famille. Vous remarquerez qu'il a créé Adam et Ève, homme, femme. Ils se sont connus et ils ont eu des enfants. Alors pourquoi la famille est un concept divin ? C'est le lieu, comme je disais tout à l'heure, c'est le lieu idéal pour grandir, une famille saine, se développer, apprendre, devenir un adulte, découvrir Dieu. C'est dans les familles qu'on découvre Dieu. Écoutez, vous venez à l'église, c'est bien. Et si vous avez des enfants, c'est bien. Ne comptez pas sur l'église pour faire l'enseignement spirituel à votre enfant. Ça ne sera pas suffisant. Je vous le dis, une fois par semaine, le dimanche, alors oui, l'église plante des graines et elle est précieuse. Et peut-être que, suivant les contextes, c'est le seul apport que l'enfant aura. C'est mieux que rien et on fait bien. Il faut venir avec nos enfants à l'église. Il veut rester faire dodo. Ben non, en fait, tu fais quoi à l'école ? Tu fais dodo dans ton lit ? Non, tu te lèves, tu te brosses les dents, tu ne te brosses pas les dents. L'église, ben non, tu te lèves, tu viens à l'église, c'est important. C'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est la famille de Dieu. Je vais à l'église avec ma famille. Les gars, emmenez vos femmes. Non mais, pourquoi ça serait, allez, on va à l'église aujourd'hui. Non, t'es un bonhomme, t'es le chef de la famille bibliquement. Donc allez tous ensemble, levez-vous les gamins, on y va tous ensemble. Et puis tu conduis ta famille à l'église. Et ta femme, elle est trop contente. C'est génial. Et on loue le Seigneur, etc., etc. Pourquoi je dis que c'est insuffisant? Parce que en fait, tes enfants, ils te regardent. Tes enfants, ils t'observent. Et ils... Ah là là, ils voient hein, si y a quelque chose, comment dire, qui n'est pas aligné. Vous voyez, si on fait « Alléluia, Alléluia » le dimanche matin, et que par exemple, tout le reste de la journée, tu es infect à la maison. Mais qu'est-ce que t'enseignes à tes enfants? Qu'est-ce que tu leur montres? De l'hypocrisie peut-être? De la religiosité? En fait, nos enfants, ils ont besoin de vivre dans un foyer qui vit la parole de Dieu. Amen. Et vous savez, comment ça se passe. Moi, je ne prends pas ma Bible, je m'assois par terre et je leur fais toute une étude de Lévitique. En fait, c'est dans le quotidien. Dans le quotidien, on apprend le partage, je leur apprends. Vous pouvez prier pour vos enfants et avec vos enfants. Ils ont fait un cauchemar la nuit. On va prier Jésus. Tu as peur d'aller au collège? Parce que voilà, j'ai eu cette conversation il n'y a pas longtemps avec mon grand. Tu as peur d'aller au collège? Eh bien, écoute, on va en discuter, on va demander. Tu sais, Jésus, il est toujours là avec toi, hein, tu n'es jamais tout seul, hein, tu es au courant, même si tu es dans les couloirs. Tu peux toujours demander de l'aide à Jésus. En fait, vous voyez, vous donnez des pépites à vos enfants dans votre éducation tout au long de la semaine. Et, vous pouvez, et maintenant, on a des super supports. Il y a des bibles pour enfants, il y a des films pour enfants, des DVD. En fait, vous pouvez injecter beaucoup de foi au sein de votre foyer, au sein de votre famille, avec vos enfants. Et c'est votre rôle, c'est votre responsabilité. Dieu vous a donné des enfants, ou il va vous en donner, et, il en a préparé pour vous. C'est notre rôle d'emmener nos enfants dans la foi. Après, eux, ils feront un choix, d'accord, de suivre Jésus ou pas. Mais moi, je fais tout ce que je peux pour poser des fondations pour qu'eux, après, ils puissent... Je souhaite qu'ils choisissent Jésus. Je le souhaite de tout mon cœur. Et pour certains d'entre eux, c'est déjà fait. Pour certains d'entre eux, c'est déjà fait. Tous mes enfants ont moins de 11 ans. À quel âge est-ce qu'on peut croire en Dieu ? À quel âge est-ce qu'on peut expliquer à un enfant qui peut être baptisé du Saint-Esprit? À quel âge je peux dire à mon enfant qu'il peut prier en langue? À quel âge je peux lui dire qu'il peut aller prier pour les malades? J'ai emmené ma fille de 8 ans voir son grand-père à l'hôpital, lui imposer le pied pour que le pied ne soit pas coupé. En fait, vous pouvez faire ça avec vos enfants. Oui, solliciter les équipiers de prière, solliciter les ministères. Et toi, dans ton foyer, tu fais quoi? Avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. En fait, ne vous limitez pas. Jésus veut que vous fassiez ça. Votre premier ministère, c'est votre famille. Franchement, c'est génial le service à l'église. C'est super. L'église, celle... Une famille spirituelle, Jésus a donné sa vie pour la famille spirituelle. Jésus a donné sa vie pour l'Église, d'accord ? Jésus a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Ton premier ministère, c'est ta famille. Vous voyez, là, moi, je suis là. Si ça ne va pas à la maison, bah oui, vous aurez peut-être passé un bon moment, moi aussi, mais si je sais que dans mon foyer, ça ne va pas, je vais peut-être arrêter ça là et prendre plus de temps pour mon foyer. Il faut que mon foyer il aille bien. Moi, c'est ma priorité. Les parents sont la première représentation de l'autorité divine auprès des enfants. Vous comprenez, ce que je pense de Dieu, par exemple, est très impacté par ce que je pense de mon père. Le père est une représentation de l'autorité auprès de l'enfant. la relation que j'ai eue avec mon père peut impacter la relation que j'ai avec Dieu le Père. C'est pour ça que c'est très important, et je crois que Sandra vous l'a abordé, c'est très important de se réconcilier avec nos images paternelles, avec nos images maternelles, on en parlera tout à l'heure, pour en fait recevoir les vérités de Dieu. Et tous les mensonges que l'ennemi il vient plaquer sur nous, qui nous limitent, eh ben en fait, on peut s'en libérer, vraiment littéralement. L'origine de la famille se trouve dans les cieux. Une famille en bonne santé, vous savez ce que ça donne, une société en bonne santé. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a de grands défis devant nous. C'est vrai. Et je vous l'ai dit, ils sont possibles à relever avec Jésus-Christ. Je le crois de tout mon cœur. Alors, comme je disais, la famille, c'est le lieu aussi idéal pour être sanctifié. N'est-ce pas ? Vous savez, on ne naît pas parfait. Même s'il y a des courants qui veulent nous faire croire que les enfants sont innocents. Non ! L'enfant naît avec le péché. C'est pour ça qu'il a besoin d'être éduqué. J'en ai 5. Croyez-moi, s'il n'y avait pas d'éducation, ben, c'est sportif. Mais voilà, je sais que je sème pour la vie. En fait, dans ma famille, j'ai des miroirs. Dans ma famille, ces personnes-là peuvent me dire « Là, Jake, ça ne va pas ». Dans ma famille, j'apprends à dire pardon. J'apprends à pardonner. Je vais dire quelque chose. Vous savez, on tanne beaucoup les enfants. Dis pardon, excuse-toi. Je considère qu'en tant que parents, nous devons leur montrer l'exemple. Vous êtes d'accord ? On leur dit tout le temps. Il faut leur montrer l'exemple. C'est comme, tu vois, tu fumes une clope, puis tu dis à tes enfants, ouais, fais jamais ça. En fait, tu n'as pas d'autorité. Je suis désolée de te le dire. Tu n'as pas d'autorité. Hein ? Par contre, quand tu écrases ta clope, que tu te libères de cette addiction, Jésus aide, vraiment. Et tu peux dire à ton enfant, j'ai fumé. Aujourd'hui, je ne fume plus. Ne fume surtout pas. Il y a une autorité. Et tu vois, si tu dis tout le temps à tes enfants, dis pardon, excuse-toi, là, 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 et que toi, tu le fais jamais, est-ce que vous vous êtes... Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites. Moi, c'est quelque chose que j'apprends à faire avec mes enfants. Je leur ai déjà demandé pardon. Ils sont tout petits, pourtant. Quand j'ai tort ou que je me sens reprise, je vais leur présenter mes excuses. Je leur demande pardon. C'est s'il y a une situation de tension, de conflit, etc., c'est aux parents de libérer le pardon sur les enfants. Les parents, vous avez pas à exiger le pardon de vos enfants. Il y a un peu une fierté parentale. Non, mais c'est à lui de venir nous voir après tout ce qu'on a fait pour lui. Qui est venu, toi, te chercher le premier ? C'est Jésus qui est venu tous nous chercher le premier. Jésus, la parole de Dieu dit, Jésus nous a aimés le premier. Parce qu'il nous a aimés le premier, nous, on peut libérer de l'amour. Et en fait, nous devons nous représenter, c'est quand même énorme, hein. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais nous représentons l'autorité de Dieu sur terre auprès de nos enfants. C'est quand même un truc de dingue. Hein. Et je veux montrer à mes enfants comment on peut libérer le pardon. Et ça passe par moi. Et dernièrement, j'ai eu une conversation avec ma fille qui a beaucoup de mal à s'excuser. Lui dites pas que je vous l'ai dit. Et j'ai pu lui dire, j'ai dit, mais tu sais, Joy, si moi, quand j'ai tort, je viens et que je te demande pardon, toi aussi, tu peux le faire. Je dis, c'est pas que les autres qui ont tort. Moi, j'ai pas toujours raison. Ben, je le reconnais. Toi aussi, tu peux prendre ce chemin-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il n'y a pas d'âge. Des fois, on peut se dire, ouais, c'est bon, mes gamins, ils ont 30 ans, 40 ans. Ben non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour reparler du passé et dire, tu sais, je réfléchissais à ça l'autre jour et je voulais te demander pardon par rapport à ça, ça, ça. Vous faites ça avec vos enfants, vous allez ouvrir des portes. Incroyable. Vous avez libéré le pardon, vous allez libérer la vie. Et vous inquiétez pas, je suis comme vous. Hein. Moi, quand je fais ça, j'ai une boule au ventre. Hein. Et on libère la vie, on libère le pardon. Peu importe l'âge des enfants. Le diable déteste la famille parce que le plan de Dieu passe par les familles. Alors, ding ! Le plan de Dieu passe par les familles. Libérer le pardon, libérer de l'amour, le partage, la communauté, la protection des plus faibles et des plus vulnérables. Ça, c'est une histoire de famille. Est-ce qu'on va s'appuyer sur la société pour s'occuper de nos anciens, des handicapés, des femmes enceintes qui ont eu des grossesses indésirées? Vous voyez ce que la société fait, comment elle les aide? Nous allons droit vers l'euthanasie, nous allons droit vers les avortements qui ne cessent d'augmenter. Qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant qu'Église et en tant que famille? Dieu nous demande de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, des personnes vulnérables. Le diable concentre énormément d'énergie et de stratégie pour détruire le concept de la famille. Mais vous le voyez dans la société. Vous le voyez. La famille, c'est un lieu de défi, c'est vrai. C'est un lieu, vous savez, quand vous mettez Jésus au sein de votre famille, mais dans le concret, hein, pas théoriquement, dans vos choix, dans vos décisions, en fait, c'est un lieu glorieux. Et Jésus nous invite à renouveler nos pensées pour comprendre comment lui a voulu la famille. Nous avons tous une idée préconçue de qu'est-ce que la famille en fonction de ce que nous, on a vécu. Comme par exemple l'église. On a tous une image de qu'est-ce que doit être une église. Mais on doit régulièrement laisser Dieu nous parler sur qu'est-ce qu'une famille d'après Dieu. J'ai pas toujours... Vous voyez, c'est comme une épouse, c'est comme un mari. Qu'est-ce qu'un mari? Qu'est-ce qu'une femme? La Bible nous en parle et on a besoin de laisser la parole de Dieu se révéler en nous. Donc pour la famille, c'est une école de la vie. Bibliquement, c'est un lieu de bénédiction, de multiplication. C'est un lieu d'héritage et de récompense. Les enfants sont une récompense. Écoutez, je vous le dis. Le problème, ce ne sont pas les enfants. Les enfants, c'est une récompense. C'est un héritage de l'Éternel. Ça va? Alors, écoutez, j'ai 5 enfants. Je suis très fatiguée. Oui, c'est du boulot. Bah, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est du boulot. Voilà. Et je pense que vous en ayez 1, 2, 10, c'est du boulot. Moi, des fois, j'ai des gens qui me disent « Oh là là, je ne sais pas comment tu fais avec 5 gosses. Moi, avec 1, je galère. Avec 2, je galère. » Alors, écoutez, je galérerai plus avec 1 qu'avec 5, si ça peut vous encourager. Non, je suis honnête avec vous. Hein. Parce qu'avec le numéro 1, bah, faut être honnête. Hein. En fait, on saute d'un avion et sans parachute. Hein. Le bébé, il sort et il n'y a pas de manuel. Et là, vous vous retrouvez avec votre mari que vous aimez énormément. Et en fait, vous avez plein de questions. Vous dormez très peu. Vous avez mal au sein parce que vous allaitez. Vous allez mal ailleurs parce que la pastèque est sortie. Et en fait, voyez, on découvre tout. Donc moi, j'ai lu beaucoup de livres et puis j'ai appris plein de choses sur l'accouchement, sur l'allaitement. J'essaie de comprendre les changements qu'il y a dans mon corps. Et on se donne énormément pour ce premier enfant et il prend tout l'espace, tout notre temps, toute notre énergie. Et c'est merveilleux. Et en fait, vous en avez des suivants et ils rentrent dans les rails que vous avez posés avec les premiers. Voyez, c'est pour ça que les premiers rails sont très importants. Et vous voyez, la cinquième, Myriam, elle est arrivée. Et même moi, je suis épatée. Hein. Je ne me serais pas cru capable de gérer un écosystème comme ça. Hein. Parce qu'en fait, ma sœur, elle aime bien se moquer de moi. Il ne faudrait pas me confier un état. Voyez, je pense qu'il faudrait que je sois en équipe. Hein. J'ai perdu aucun enfant et ils sont tous en vie. Mais je suis fière de moi, vous rigolez ? Parce que moi, je suis un peu tête en l'air. Et j'oublie des trucs, machin, tout ça. Et j'ai jamais oublié mes enfants. Voilà. Merci. Eh, il n'y a pas d'applaudissements, là, hein ? Merci, merci. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire, oui, la maternité, la parentalité, c'est challengeant, évidemment. Et en fait, moi, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'au travers de mes enfants, moi aussi, ça m'a permis de me remettre en question moi-même, sur mon éducation, mes parents. J'ai cherché Jésus. Franchement, j'ai beaucoup cherché Jésus, notamment grâce à la parentalité. Parce que bah, j'ai des petits êtres humains là, que je dois gérer, que je ne comprends pas trop tout. Mais Jésus les connaît par cœur. Et Jésus me les a donnés. Et il me les a donnés à moi parce qu'il savait que c'était pour moi, que j'étais la bonne personne. Et vous, vous êtes les bonnes personnes pour vos enfants. Je ne suis pas la bonne personne pour vos enfants. Hein. Ça se trouve, je les perdrais. Je plaisante. C'est juste pour vous encourager. On apprend tous. On apprend tous. Donc, les promesses pour la famille, il y a aussi la notion, je disais, de multiplication, de fécondité de la femme. C'est une bénédiction. La femme qui enfante, c'est une grande bénédiction dans la Bible. La stérilité, ce n'est pas le cœur de Dieu. Il y a de la prospérité, il y a de la transmission, des enseignements. Moi et mon mari, nous enseignons à nos enfants. Il y a de la transmission de savoir dans la famille. Qu'est-ce que tu transmets à tes enfants ? Vous savez, enfin, quand vous avez des enfants, enfin, même avant de vous marier, vous vous mariez pour, vous avez une vision, vous avez une mission. Si vous l'avez pas, mettez un coup de frein à main. Hein. On se marie pas juste parce qu'on a des guilis dans le ventre. C'est très bien que vous les ayez, je les ai eus aussi, mais il faut avoir une vision, une mission. Et ma famille, vos familles, c'est une mission de Dieu. Vous savez, des fois, je suis triste de l'entendre. Moi, j'entends des mamans, elles accouchent, elles sont en postpartum, elles se sont occupées d'un bébé toute la journée. Les filles, si vous l'avez vécu, quand vous avez changé 15 couches, pas de visite à la maison, de la fatigue, un bébé qui pleure, vous ne comprenez pas pourquoi il pleure, votre mari rentre du travail, qu'est-ce que vous lui dites ? Occupe-toi-en, ouais. J'ai rien fait aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est faux ? Mais ça, c'est juste, on n'a pas rien fait, mais on se sent tellement seul. En fait, vous avez maintenu une femme de Dieu et un homme de Dieu en devenir, en vie. En fait, vous êtes le centre vital, la production de lait, la production d'amour, l'odorat, le bébé sent ton odeur. En fait, vous êtes la sécurité de cet enfant qui est archi ultra vulnérable, complètement immature, un cerveau complètement immature. Vous êtes bah, son monde. C'est beau. C'est magnifique. Et c'est de Dieu. Et en fait, bah, si jamais vous le re-entendez, reprenez la femme qui dit ça. Dites-lui, non, tu n'as pas rien fait. C'est extraordinaire ce que tu as fait. Oui, la société, elle ne t'applaudit pas parce que tu changes des couches, parce que tu endors ton enfant contre toi, parce que tu l'allaites. Mais la société devrait. Il manque des médailles, là. Hein ? Elles sont où toutes les médailles pour les mamans ? En fait, on donne de nous, de notre personne, de notre temps, de notre corps, de notre lait pour la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que les hommes et les femmes de demain, ils sortent quand même tous de nous. D'accord ? Même s'il y a des hommes qui veulent essayer d'en sortir. Enfin bref, c'est un autre sujet. Voyez le pouvoir de vie que Dieu met en chacun d'entre nous. C'est, en fait, c'est juste magnifique, c'est juste beau. Dans la famille, il y a tous les fruits de l'esprit, j'en parlerai tout à l'heure. Je crois que tous les fruits de l'esprit peuvent se manifester au sein de la famille, et notamment la joie. On va parler de l'ordre divin rapidement. Vous savez, moi j'ai beaucoup entendu, il faut mettre Dieu avant tout. Vous l'avez peut-être entendu. Qui c'est qui est d'accord avec ça ? Il faut mettre Dieu avant tout. Donc avant la famille, avant le travail, avant l'église, on met Dieu avant tout. Pourquoi tu n'es pas d'accord ? On le met au centre de tout ce qu'on fait. Et puis on dit oui, ben voilà, le plus important c'est qu'il y ait Dieu en premier. Et puis on a nos tiroirs comme ça. Et j'ai beaucoup entendu ça, et c'est ce qu'on peut entendre des fois encore. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, on met Dieu au centre de tout. Et en fait, vous voyez, le problème de ce schéma-là, c'est que vous êtes dans la même réalité que moi, vous êtes dans la même vie que moi. C'est juste que, en fait, des fois, il y a des saisons. Et parce qu'on a acheté une maison, on priorise un peu plus les travaux. Parce qu'on vient de se marier, on priorise un peu plus les temps de couple. Parce qu'on vient d'accoucher, on priorise un peu plus le bébé. Parce qu'il y a éclosion qui se prépare. Ben, nos soirées, c'est un peu plus pris dans éclosion. Et puis, ça grignote un peu sur le reste. En fait, ça, c'est normal. Ce sont des tiroirs de nos vies. Et au lieu, en fait, d'imaginer les choses comme ça, là, en couches, en fait, moi, ce que je vous encourage à faire, et ça rejoint ton idée de mettre Dieu au centre de tout, c'est au lieu de mettre des tiroirs comme ça, mettez Dieu dans chaque tiroir. Ça va vous faciliter la vie et ça va vous déculpabiliser. Donc, en fait, en fonction des saisons de ta vie, il faut que tu comprennes qu'en fait, voilà, en fait, Dieu, c'est l'étagère, quoi. En fonction des saisons de ta vie, de toute façon, Dieu, il est dans tous tes tiroirs. Donc même si, par exemple, en ce moment, c'est plus les études parce que tu passes un examen, ça ne veut pas dire que Dieu, il passe après. Non, Dieu, il est dans ton tiroir avec tes études. Dieu, il est dans ton tiroir avec tes projets, avec ton couple, avec tes enfants. D'accord ? Si je prends un peu plus subtil, parce qu'on parle de la famille, on peut aussi entendre voilà l'ordre divin. Donc c'est d'abord Dieu, ensuite le couple, et le couple d'abord, puis après les enfants, et après la famille élargie, la belle famille, etc. Voilà. Mais c'est pareil. En fait, voyez ça, ces tiroirs-là, ils peuvent bouger. C'est-à-dire que oui, Dieu est dans tout. Dieu, il est dans mon couple. Dieu, il est avec mes enfants. Et des fois, ben, quand je viens d'accoucher, que je suis en postpartum, le bébé, c'est un peu la priorité pour le moment. Donc, des fois, le tiroir, il est avant le couple. Mais Dieu est dans tout. Et je vous encourage, vous gardez à l'esprit qu'en effet, votre couple, c'est le socle. Votre couple... Écoutez, on fait des enfants pour qu'ils s'envolent et qu'ils fassent eux-mêmes leur propre famille. Vos enfants ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Vous les faites pour les libérer et pour les propulser. Alors vous allez me dire, bah Jack, t'es maligne, hein, mais c'est dur à faire. Moi, c'est vrai que c'est pas ma saison. Peut-être que Joe pourrait dire autre chose avec Wesley, mais chut. On va pas parler des choses qui fâchent. Bref, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ton couple, tu fais un. La Bible, elle dit, tu fais un. Donc, tu dois garder, même si des fois les tiroirs, ils bougent avec les saisons de vie, il faut absolument garder en tête que c'est ton couple. C'est avec ton couple que tu es une seule chair. Donc, on est un peu dans une société qui mélange tout, où c'est les enfants qui deviennent le centre. Oui, les enfants prennent beaucoup de place. Je vous le confirme. Avec votre conjoint, avec votre conjointe, vous devez garder en tête, c'est notre couple d'abord. Parce que si vous allez bien, les enfants iront bien. Et en fait, j'ai beaucoup entendu, moi j'aime bien écouter les gens parler, les témoignages des autres, j'ai beaucoup entendu, les enfants sont partis, puis on s'est regardés, puis en fait on n'avait plus rien à se raconter. Ben, peut-être parce qu'on n'avait rien vécu d'autre que la parentalité pendant 20 ans. Donc en fait, il y a ce truc énergivore où les enfants prennent beaucoup de place, où les enfants prennent du temps et tout ça. Mais si tu ne veux pas perdre ta famille, si tu ne veux pas perdre ton couple, il faut planifier la vie de couple et la prioriser sur certaines choses dans l'organisation de ta vie. Donc ça, après, ça, c'est des petits tips. Je reviendrai tout à l'heure de choses qu'avec Ben qui nous ont aidés. Parce que c'est pareil, là, je vous dis de la théorie, mais comment est-ce qu'on fait pour que le couple soit au centre? Donc c'est très important, il y a des saisons. Mettez Dieu dans toutes vos saisons. Et des fois, les tiroirs, ils bougent. Mais gardez en tête que votre couple, ça doit être une forteresse et une oasis. Et les enfants, ils gravitent. Hein. Ils gravitent autour. Ils partent, ils reviennent. Et vous, vous êtes ensemble, fort. Le couple ensemble. Le mariage, en fait, je vais vous parler du mariage, parce que le mariage, c'est une institution, il est où mon bip bip, divine. Pareil, c'est Dieu qui a créé la notion de mariage. Donc, dans la notion de mariage, on a la notion d'alliance. Donc, pourquoi je vous parle d'ordre divin? Parce que c'est le cas dans la famille en bonne santé, la famille telle que Dieu l'a voulu, telle que Dieu l'a créée. Il y a un ordre, il y a un homme, une femme, un mariage. Et en fait, il y a la notion d'alliance. Le mariage, ce que tu en penses peut dépendre de ce que tu as vécu. Le mariage, nous le savons, nous, si tu es chrétien, ce n'est pas juste une signature à la mairie. Bibliquement, le mariage, c'est une alliance. Alors tu vas me dire, c'est quoi ce mot « alliance » Elle parle de la bague. Tu t'engages à fond. Quand tu fais alliance avec quelqu'un, dans la Bible, une alliance avec quelqu'un, c'était je m'engage corps, âme, esprit, pour toi, avec toi. Et c'est ce que tu fais quand tu es à la mairie. Donc, c'est un engagement total. Tu vois, on ne se marie pas en disant « je ne suis pas sûre ». Tu es sûre. Tu es sûre. Parce que quand tu signes, c'est à fond, quoi. On est une équipe, c'est à fond, c'est jusqu'à la mort. Institué par Dieu, donc devant les autorités, il y a des religions qui permettent des mariages religieux qui ne se font pas devant les autorités. Non, la Bible, elle dit, tu te soumets aux autorités, donc si tu veux te marier avec telle personne, l'Église te bénira dans ce pays, mais elle ne te marie pas. C'est la mairie qui reconnaît ton mariage et l'Église te bénit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Juste un petit truc, voyez là, l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme. Écoutez, il y a une notion quand on se marie où il faut couper le cordon ombilical avec les parents. Et ça c'est sain et ça c'est normal. Tu vas te marier et tu vas créer ta propre famille avec ta propre culture de famille. Ça va prendre un peu de temps, et c'est normal. Tout le monde se réadapte à la nouvelle famille qui se crée. Tu ne te maries pas avec la belle-mère ou une belle-sœur. Le mariage, c'est exclusif. Le conjoint, la conjointe, Dieu. Et des fois, dans la famille, il faut mettre des limites. Ce n'est pas les personnes extérieures qui décident pour le couple. Ce n'est pas les personnes extérieures qui décident pour l'éducation des enfants. C'est toi et ton conjoint. C'est vraiment super important parce qu'il peut y avoir beaucoup de conflits en fait par rapport à ça. Donc, ta femme avant ta famille. Ton mari avant ta propre famille. C'est vraiment important. Si ta femme, elle sent qu'elle passe après, tu sais, ça fait mal au cœur, ça. Si ton homme, il sent qu'il passe après, ben, ça fait mal au cœur aussi. Par exemple, ça, c'est une forme de déshonneur. tu écoutes plus ta mère que moi. Ouais, ouais, ouais. Ben, raligne peut-être tes relations avec ta maman. Parce que maintenant, c'est pas ta maman la première personne de ta vie. C'est ton mari. Et c'est pareil avec ta femme. L'ordre divin. on va parler des relations hommes-femmes. C'est très beau parce que dans l'ordre divin, on a cette comparaison, vous savez, de Christ avec l'Église. Je vais vous lire le passage. C'est dans Éphésiens 5, ce passage il fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. » C'est intéressant. Premier point, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Il n'est pas écrit « Marie, soumettez vos femmes ». J'espère que c'est compréhensible. Donc, mesdames, ce sont nous qui nous soumettons. Nous acceptons de nous soumettre à notre mari. Soumettre, ça veut dire respecter, honorer, se mettre sous la protection de, estimer. Si tu sens du mépris, par exemple, tu n'es pas dans l'honneur, tu n'es pas dans la soumission. Alors, la suite du passage arrive. Hein. Accrochez-vous, les garçons. Juste, ce qui est très beau, c'est que là, le passage juste après, c'est donc Marie. Alors, on a quand même Marie est le chef de la femme, le chef de la famille. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Les gars, vous savez, le mariage, c'est pour des bonhommes. C'est pour des hommes. C'est pas pour des petits garçons. Donc, si tu veux te marier, assure-toi que tu sois un bon homme de Dieu. C'est pour les hommes. Les hommes dans leur identité. Ah, solide. Qui vont protéger. Protéger une femme, protéger des enfants. C'est bon, ça. Nous, on veut de la protection. Hein. Et la femme, accepte la protection de ton conjoint. Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu t'excites là ? Accepte la protection de ton conjoint. Vous savez ce que ça veut dire, le chef ? Ça veut dire que tu vas devoir rendre des comptes devant Dieu de comment tu as aimé ta femme. Ah, ça me met un peu de la crainte dans le cœur. Comment ta femme, elle s'est sentie honorée ? Comment elle s'est sentie aimée, choyée ? Parce que Jésus, l'exemple de Jésus et de l'Église, c'est que Jésus, il a donné sa vie pour l'Église. Jésus est l'exemple parfait de l'époux. Il s'est sacrifié, il a un amour sacrificiel. Donc, les hommes, vous êtes le chef de la femme, vous êtes le chef de la famille, vous allez devoir rendre des comptes devant Dieu comment vous avez choyé, protégé, aimé cette famille que Dieu vous a confiée. Est-ce que ça veut dire que la femme est moins ? Ah, pas du tout. Ah, moi, je n'ai pas du tout lu ça, hein, parce qu'on est une équipe. On est une équipe. D'accord ? Ah, ça va, les gars, vous ? Non, mais c'est génial. Dieu équipe les hommes pour ce qu'il les appelle à être. Et Dieu équipe les femmes pour ce qu'il nous appelle à être. D'accord ? Donc, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Y a vraiment cette notion de prendre soin de nous. Et il y a aussi cette notion, voyez, femme, soumettez-vous, d'accord ? Je vais vous le dire, il est très facile de se soumettre à un mari qui est aimant, qui a un amour sacrificiel pour la famille, qui est dans l'écoute, qui prend soin, qui fait de son mieux, qui fait les travaux. Mais oui, mais en fait, écoute-moi, au bout d'un moment, parce que toi, tu te dis, oh, c'est bon, elle a pété un plomb. Mais en fait, quand je t'ai demandé de revisser l'ampoule et que 6 mois plus tard, c'est toujours pas fait, bah, c'est vrai que ça saoule. Et au bout d'un moment, je prends l'ampoule, je vais la visser moi-même. Alors, c'est une petite blagounette, mais c'est des choses qui peuvent arriver dans le quotidien. Et peut-être que vous vous êtes reconnues. Et en fait, nous, les femmes, Ben, si on sent que le mari, il est à l'écoute, qui pourvoit, qui fait de son mieux, qui nous protège, qu'il n'est pas en dualité, rivalité avec nous, ou alors qui fait rien à la maison, qui s'investit pas dans les enfants, ça nous touche, hein, je vous le dis, si vous le saviez pas. Moi, de voir mon mari s'investir dans les enfants comme il le fait, ça me touche. Je vais vous dire, ça me séduit. J'ai envie de lui faire l'amour. Non, mais c'est-à-dire que... Non, mais il y a un moment donné... Non, mais vous rigolez, mais... Vous savez ce que dit la Bible ? Vous savez ce qui séduit une femme ? Vous savez ce qui est séduisant ? C'est dans les proverbes. La bonté d'un homme. Les filles, les gars, ils sont là. Ah bon ? J'ai pas mes muscles. Écoute, mon mari, il est musclé. J'aime beaucoup aussi. Mais... Non, vraiment... La bonté d'un homme, toutes les filles, elles ont fait « Ah oh, ouais, c'est vrai. » Quand tu peux dire « Mon homme, il est bon. Oh, » mais il n'y a aucun problème, hein, t'inquiète, hein, tu vas pouvoir avoir des relations sexuelles avec ta femme. C'est juste, en fait, remettez les choses. Les femmes, pour se donner à l'homme, elles ont besoin aussi d'un contexte. Si le contexte, il n'est pas là, on a du mal psychologiquement à se laisser aller. Et les gars, vous aurez compris ça. Vous allez créer un contexte autour de votre femme, mais elle va vous réjouir, hein, vous inquiétez pas, et ça va être fantastique. C'est juste pour vous dire que c'est très facile de se soumettre à un tel homme. C'est très facile. Je n'ai pas de problème à me soumettre à Ben, parce que je le vois, il fait de son mieux, il se donne pour la famille, il me respecte. Vous voyez, quand on est dans des situations d'abus, de non-respect, d'humiliation, c'est très difficile de se soumettre. Quand on ne se sent pas écoutée, pas comprise, humiliée, c'est horrible de se soumettre à un tel homme. C'est très facile de se soumettre à un homme bon. Alors, que dit la Bible ? Regarde la poutre dans ton œil. C'est-à-dire que les femmes s'occupent de leur part, que les hommes s'occupent de leur part. Femmes, faites ce que la Bible dit que tu dois faire. Les gars, faites ce que la Bible dit que tu dois faire. Et vous allez voir, on va se réconcilier. On va se réconcilier. Chacun va faire sa part. Moi, je crois que l'amour, il peut revenir. Hein. Je crois que quand la flamme s'est un peu éteinte, moi, je crois que si on souffle dessus, elle peut se ranimer. J'y crois. Donc, juste je dis, j'ai rapidement parlé de situations qui étaient un peu abusives. La Bible ne justifie jamais l'abus et n'utilise jamais la Bible pour justifier un abus. Non, la Bible ne justifie jamais l'abus. Je t'ai tapé parce que, non, il y a écrit dans la Bible, sois soumise, donc tu fais ça. Ne te prive pas, on doit être en accord et que dans la prière. Non, non et non. Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est de la manipulation. Tu n'as pas le droit d'imposer une relation sexuelle à ton conjoint s'il ne veut pas. Tu n'as pas le droit. Tu dois respecter son corps. La Bible, elle dit à l'homme de considérer la femme comme un vase fragile. Mais ça veut dire quoi cette histoire ? Qu'on est en sucre ? Non, non, non. Ça veut dire qu'on est précieuse. Il faut prendre soin de nous, les gars. Nous, on aime trop ça, hein. En société, voilà, il faut montrer des fois, gna gna gna. Mais dans l'intimité du couple, mais on aime en fait que vous nous traitiez comme des princesses. On aime en fait que d'être choyé par vous. On aime ça. Puis la réalité, c'est que vous aussi, en fait, vous aimez bien vous sentir bien fort et que, voilà, moi, je prends soin de mes poulettes. Mais vous avez raison. Et puis nous, on veut ça, en fait. Donc dans la famille, il peut y avoir tous les fruits de l'esprit manifestés. On a déjà parlé du mariage, rapidement, le mariage, dans la notion du mariage, la notion de fidélité, bien sûr, de respect, d'honneur, aspirez à un foyer chrétien, mariez-vous avec une personne qui a la même vision, la même mission, mariez-vous avec quelqu'un dans la foi. On a parlé du fait que l'Église était une famille, on a déjà parlé de la relation du couple. J'aimerais parler peut-être un petit peu de la notion de célibat, si c'est le prochain. Non, les fruits de l'esprit, ça me va très bien. Les fruits de l'esprit, Galates 5, 22. Tous les fruits de l'esprit peuvent se manifester au sein de la famille. Je le crois. Il y a la maîtrise de soi. Oh là là, la parentalité. Je nage dans la maîtrise de moi-même. Il y a de la joie, il y a de la bonté, il y a de la bienveillance. Tout ça, ça se manifeste, voyez, au sein de la famille. Prenez Galates 5, 22 et regardez, en ce moment, il n'y a pas de joie dans ma famille. Faites ça. Seigneur Jésus, comment est-ce que je peux injecter de la joie dans ma famille? Je vais te donner des idées, ma chérie. Va faire un foot dehors avec tes enfants. Fais un jeu de société. Allez faire du trampoline. Allez à la piscine. Regardez un film drôle. Mais injectez de la joie dans vos familles. Passez du temps avec vos familles, avec vos enfants. Le célibat, alors ça peut être un appel, ça peut être un temps donné, ça peut être une saison. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un. C'est pas une chaise assise. Tu n'es pas à moitié. T'es pas incomplet. Tu es appelé de Dieu. Tu es appelé de Dieu. Avant le mariage, tu es appelé de Dieu. Dans le mariage, tu seras appelé de Dieu dans ton veuvage. C'est quoi cette histoire « Je me lèverai que quand je serai mariée ». C'est normal d'aspirer à une famille. J'ai aspiré à une famille. Je voulais ça dans mon cœur. Lève-toi pour Jésus dans ton célibat. N'attends pas. Et je vais parler aux personnes qui ne sont pas célibataires. Ouvrez vos maisons. Adoptez les célibataires. Mais c'est ouvrez vos maisons, allongez vos tables. Le dimanche, il y a un célibataire qui mange tout seul après le culte. Mais c'est inconcevable. Et vous, vous avez plein de mioches et en plus, vous avez besoin d'aide. Mais en fait, le célibataire, aidez-nous. On a besoin d'aide. Venez faire du babysitting. Moi, il faut que je sorte avec mon mari manger au restaurant. Je vous filerai 20 balles. Mais en fait, vous voyez la communauté de vie, la famille, mais c'est ça. Dieu ne veut pas des couples seuls, il veut pas des célibataires seuls, il veut pas des personnes âgées seules, il veut pas des femmes enceintes seules. La famille de Dieu, c'est une communauté de vie. Si vous captez un célibataire tout seul, mais invitez-le à vos vacances. Vous aurez quelqu'un qui pourra gérer la tornade que vous n'arrivez pas à gérer. Là, je parle de moi. Hein. J'ai une tornade, c'est le numéro 4. Oh, celui-là, il vaut des points. Cherche à être la personne que Dieu veut que tu sois. Là, tout de suite, aujourd'hui, que tu sois célibataire, marié. Mais ça, c'est une mission merveilleuse. Je le ferai quand je serai mariée. Oui, des enfants, d'accord. Oui, je te le conseille. Fais les enfants quand tu seras mariée. Mais... répondre à l'appel de Dieu pour toi, vas-y. Cherchez le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Priez pour vos familles, priez avec les membres de vos familles. Donc ça, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était un petit exemple. Voilà, j'ai une fille, elle a fait des cauchemars, on prie pour qu'elle en fasse plus. Alors moi, je suis pas très assidue, vous savez, tel jour, on fait ça. On est un peu, je pourrais l'être un peu plus d'ailleurs. Mais on va par exemple prendre la Bible et j'essaie de rendre les choses ludiques. On va prendre un passage, on lit la Bible en BD, on en discute après. On regarde The Chosen. Oh là, c'est merveilleux ça. Les gamins, ils posent plein de questions après un épisode de The Chosen et on discute. Je leur demande ce qu'ils pensent. Et je prie avec eux. L'éducation des enfants, ça on pourrait en parler des heures. Je dirais, ce qui est très important, les parents, vous êtes comme ça. Vous êtes une team. Vous êtes comme ça. Les enfants, s'ils voient que ch'ting, ils vont pas se gêner. Hein. Ils vont appuyer sur les boutons rouges. Laisse le père être le père, s'il reprend ton enfant, même si ça te pince un peu le cœur, d'accord ? Ne critique pas ton conjoint auprès de tes enfants. Tu respectes ton conjoint auprès de tes enfants. Critique pas la mère, le père. On peut rigoler et faire des blagues, hein. Je parle vraiment de choses qui piquent. Si les enfants, ils ont été témoins d'une situation, tu dois retourner vers eux et leur expliquer et mettre des mots. peut-être demander pardon. Papa et maman, ils se sont disputés. T'as entendu ? Ouais, j'ai entendu ça crier. Ouais, on n'aurait pas dû. En fait, voilà, ça ne te concerne pas. C'est pas à cause de toi. Vous savez même pas ce que les gamins se disent dans leur tête. Des fois, les gamins, ils sont dans la chambre, ils vous entendent, puis genre, ils pensent que c'est de leur faute. Alors que peut-être, ça n'a rien à voir. En fait, oui, si vos enfants ont été témoins, vous devez éclaircir les choses auprès d'eux. J'entends beaucoup d'éducation positive, etc., etc. Que dire ? Que ça a apporté beaucoup de confusion aux parents en concernant le cadre et les limites. Un enfant, il va vous pousser à bout. Non, sans blague. Non, en fait, vous allez faire un cadre et l'enfant va venir buter contre ce cadre juste pour vérifier que le cadre est bien là. Parce que s'il sent le cadre, il est sécurisé. Vous arrêtez, vous lâchez, et ça va l'insécuriser. Et ben, il va aller un peu plus loin et puis il va continuer de taper comme ça. Non, j'avais dit pas de télé les jours d'école. Hein, ben, je vais tester tous les jours, je vais demander la télé et surtout les jours d'école. Et on va voir si les parents vont tenir. C'est pour ça qu'il faut être comme ça. Tu vois, si maman a dit, papa dit. Si papa a dit, maman dit. Moi, les gamins, ils me le font tout le temps. Hein. Ils vont me demander, après ils vont demander au père, et il y aurait un troisième, ils demanderaient au troisième. Donc, le cadre et les limites, c'est hyper important. Je vous ai dit tout à l'heure, l'enfant naît pécheur. Oui, la Bible le dit. Est-ce que ça veut dire qu'il faut battre nos enfants, extirper d'eux le mal ? Non, non, attendez, hein. On est dans quoi là ? Non, non. On est dans l'amour, on est dans le cadre. Et oui, on doit emmener nos enfants à Jésus. Ton enfant a besoin de Jésus. Ton enfant a besoin de repentance. Il a besoin d'être sauvé. Des choses qui m'ont aidée, par exemple, quand il y a une crise avec un enfant, vous savez, la Bible, elle se dit de ne pas se coucher sur sa colère. Alors, c'est valable pour le couple, je pense que c'est valable dans la famille. Si j'ai eu une situation conflictuelle avec un enfant, dans la journée, je vais faire des tentatives pour renouer le lien. Communiquer, voilà, si possible, régler le truc le jour J, reparler. Une situation de crise, je peux pas trop, c'est un peu tendu, ben, je vais attendre le soir ou attendre un autre moment propice, mettre des mots, expliquer à l'enfant. On peut parfois isoler l'enfant, lui dire des vérités. Vous savez, on dit, il faut exprimer ses émotions. D'accord, Charline. Mais il y a des émotions qui ne sont pas bonnes hein, à exprimer. On est en société, on est en famille. Ok, tu as exprimé ta colère, mais en fait, il y a une bonne manière d'exprimer les choses. Et nous devons apprendre ça à nos enfants. On ne va pas valider toutes les émotions de nos enfants, quand même. Vous voyez ? Moi, je dis à mes enfants, là, tu as dit ça, ce n'était pas juste. J'entends, tu l'as dit. Ce n'était pas juste. Vous savez que vos enfants, leur ressenti, ce n'est pas forcément la vérité. J'espère que vous le savez. Tes ressentis à toi, ce n'est pas forcément la vérité. Mais il faut que quelqu'un leur dise. Et c'est qui ? C'est quoi la vérité ? C'est la parole de Dieu. Et moi, des fois, je dis à mes enfants, je leur dis ce que dit la Bible sur certaines choses. Réparer les erreurs si possible. Voilà. Un coup, ma fille, il y a eu une situation à l'école et elle a participé, en fait, elle a enfermé une autre fille dans les toilettes. Alors, quelque part, j'étais contente que ce ne soit pas elle la victime. Mais ce n'est pas bien. C'est très mal. Et donc, j'ai parlé à ma fille, j'ai dit, avec ton argent de poche, tu vas acheter un cadeau à cette fille et nous allons aller toquer à sa porte. Tu vas lui offrir ce cadeau et tu vas lui demander pardon. Mais c'est ça qu'il faut faire avec nos enfants. Nous devons les éduquer. Il y a des conséquences à tes paroles, à tes actes. Et là, j'ai touché un truc parce que, son argent de poche. Alors, voyez, demandez à Jésus de vous inspirer des stratégies éducatives. Parce que celle-là, je ne l'avais pas lue dans un livre. Hein. J'étais fière de moi, j'ai trouvé. Elle ne l'a plus jamais refait, ma fille. Elle n'a pas le choix. Moi, je leur donne pas à manger, sinon. Hein. Non, mais c'est-à-dire que là, voilà, donc on a pris son argent de poche, on est allé au magasin, elle a acheté un cadeau, c'était à peu près 20 euros. Je l'ai emmené, c'était beaucoup d'argent pour ma fille. Je l'ai emmené chez cette dame, toc toc toc, bonjour, voilà. Joy veut te dire quelque chose. Là, je te demande pardon. Voilà, elle lui a écrit une petite carte. Trop chou, je l'ai pris en photo, c'est tellement drôle. Il y a marqué « Je te demande pardon de t'avoir enfermée dans les toilettes ». Mais c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, ma fille, ben, t'es tellement mal, t'es tellement gênée, t'as perdu 20 balles, ben, tu le referas pas, ça. Plus jamais, je veux que t'enfermes quelqu'un dans les toilettes. Parce que c'est mal. Mais vous voyez, le problème, c'est que moi, je regarde plein de trucs sur l'éducation positive. Alors, ils vous disent toutes les violences ordinaires, vous savez. Mais vous pouvez plus rien faire avec vos gamins. Vous pouvez que les écouter, puis leur faire des câlins. Alors, c'est très bien hein, d'être présent et de les sécuriser au niveau affectif. Ah oui, faites-le, hein, c'est génial. Hein. Mais je sais pas, moi. Et je fais quoi avec l'enfant qui veut pas me donner la main pour traverser la route? Puis j'ai trois autres gosses, un qui est en vélo, un qui est en trottinette, un bébé en portage. Je fais quoi avec cet enfant-là qui me dit « Non !» Ah oui, je comprends. Nous allons rester là, nous asseoir et parler. Non, tu peux. Non, mais c'est la réalité, vous comprenez? Il y a des trucs, ils sont très très haut perchés. Et moi, c'est inapplicable avec ma famille. Et moi, si je veux une famille en bonne santé, où tout le monde se respecte, tout le monde se considère, entre les frères et sœurs, je vais susciter l'empathie, voyez? Non, tu n'aurais pas dû planter la fourchette dans l'œil de ta sœur. Non, mais. Vous voyez, parce que ça fait très mal. Pff, regarde, non, je plaisante. Mais en fait, donc, je vais expliquer à mes enfants, voilà ce que ça fait à ton frère, ta sœur. Regarde-le, observe-le, il pleure, il est triste. Est-ce que tu es vraiment contente de ta blague? Bon, vraiment, elle était vraiment drôle. Mais l'enfant, ça lui a fait mal au cœur, ben, va t'excuser et arrête ta blague, en fait. En fait, nous apprenons à nos enfants à interagir entre eux. Nous leur apprenons la compassion. Nous leur apprenons à observer les autres, à être bon, à être juste aussi. Voilà, des fois, moi, j'ai dit à mes enfants, ça, c'est pas juste. Si ton copain, il refait ça, tu lui dis, arrête, tout de suite. On ne se laisse pas faire. Hein. Les enfants ont le droit de se protéger. Hein.